pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Alors on pourrait parler pendant une demi-heure hein, sur ces deux vers. Juste, moi, on y reviendra une autre fois, mais juste je voulais dire, la dîme, c'est ceux qui avaient peu, ils donnaient peu, et ceux qui avaient beaucoup, ils donnaient beaucoup. Et ça, c'est toute la compréhension de l'Éternel. Autant à l'époque que maintenant, ben, y a plein de sujets où les riches ils donnent la même chose que les pauvres. Et voilà. Et là, Dieu voulait juste montrer qu'il était compréhensif. C'est-à-dire qu'il n'attend pas les mêmes montants de ceux qui ont beaucoup, de ceux qui n'ont pas beaucoup. Et c'est juste ça que je voulais bien faire passer ce matin. C'est toute la compréhension de l'Éternel, toute la bienveillance de Dieu. Voilà, et après il y a tout le reste, mais on y reviendra une autre fois. Voilà. Amen.
Merci Xavier. On va passer aux annonces rapidement. Alors la semaine dernière, il n'y avait pas de culte, mais il y avait un bon week-end. On a passé un bon temps de détente, de repos, et il y a eu des bonnes relations établies aussi. C'était un super week-end. Hier, on était à l'académie, donc je ne vais pas en parler plus, parce que bon, on vient d'en parler. Sauf qu'on avait aussi un petit temps de coaching avec Rémi Gomez, vous le connaîtrez bientôt, puisqu'il vient au mois de janvier, et qui nous a fait un coaching sur comment faire des disciples, mais dans la rue. Voilà, avec en face des athées, des musulmans, des témoins de Jéhovah. On a mis en application, on a dû par groupe essayer de discuter avec des athées ou avec des musulmans. C'était assez folklorique, mais c'était vraiment super. Et quand il viendra en janvier, vraiment, je vous invite à être là parce que c'était excellent. Il viendra pour 2 jours. Aujourd'hui, donc, on mange ensemble. On est le premier dimanche du mois. C'est le groupe de jeunes qui s'occupe du ménage. Donc, comme on mange ensemble, ben, on aidera aussi le groupe de jeunes à faire le ménage pour que demain, puisque c'est la rentrée, l'école va redémarrer lundi. Donc, que tout soit propre et tout soit bien rangé. Voilà, donc lundi, on a la réunion anciens et responsables. Cette semaine, on continue les groupes de vie. Samedi prochain, donc il y a le groupe de jeunes avec Nathan Lambert. Donc c'est une des personnes qui s'occupe de l'académie, qui sera avec nous le week-end prochain et qui fera le partage du dimanche. Voilà, donc bon, pour le ménage, donc c'est le groupe de jeunes. Et sinon, il y a une petite annonce pour les livres qui sont ici. Tu veux faire l'annonce ? Non ? Il y a des livres à vendre, des éditions Vida, donc qui liquident les stocks à 1 euro le livre. Voilà, donc ceux qui n'ont pas encore fait leur plein, vous pouvez acheter tous les livres pour 1 euro. Voilà, il faut qu'il ne reste plus rien avant la fin, c'est ça ? Voilà, voilà. Sinon, une petite nouvelle d'André Durand. Peut-être, Joël, tu veux la donner ?
André, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est cette sœur de l'Église qui est partie depuis quelques années servir à Madagascar, qui s'occupe d'enfants, de jeunes filles notamment, et qui sert le Seigneur là-bas à Madagascar. On l'avait vu l'an dernier, elle était revenue hein, faire un petit tour. Elle a une pneumonie et elle est bien, bien fatiguée. Elle commence à prendre de l'âge aussi. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis aussi d'ailleurs, parce que... Mais non, c'est que je vois certains qui en prennent, quoi, c'est pour ça. Hein, David. Voilà, donc elle est bien fatiguée. Donc si on peut prier pour elle, ce serait bien. Dans la semaine, peut-être dans les groupes de maison, ce serait important de soutenir André Durand à Madagascar.
Dernière petite annonce par rapport à l'école. Il y a quelques petits travaux encore à terminer. En tout cas pour la semaine qui vient, il y a une liste là qui a été faite. S'il y a des bonnes petites mains... qui peuvent bricoler. Voilà, il y a des tableaux accrochés. Il y a une petite cuisine pour enfants et des draisiennes à monter. Donc, il faut. Voilà, c'est de l'IKEA, grosso modo, dans l'idée. Voilà, donc il y a quelques petites tâches à faire si quelques personnes pourront être là après, qu'on ait mangé ensemble pour pouvoir aider et que lundi tout soit prêt. Sans transition, Joël, tu peux revenir.
Alors, je sais pas vous, mais moi, dès qu'on dit IKEA, ça me fait peur. Parce que les trucs IKEA à monter, c'est pas toujours... Là, c'est facile. Hein. Alors, vous aviez reçu un email. On avait dit que s'il faisait beau, on irait à la combe des Bourguignons faire une balade cet après-midi. En fait, bon, comme il a beaucoup plu, je pense que ça va être très boueux. Donc, cet après-midi, après le repas, on va en profiter pour un temps d'amitié, un petit temps de ménage, monter des bricoles comme ça. Il y a des petites choses à faire. Ce sera un temps de communion, quoi. Voilà, c'est ça. Tout ça pour expliquer qu'on ne va pas se balader. Deux, trois petites choses avant le temps que vous preniez vos Bibles. Vous les avez peut-être déjà en main, mais... je voulais honorer un petit peu ce matin Gérard et Corinne. Je vais les inviter à se lever. Parce que tout, c'est pareil, il y a beaucoup de nouveaux dans l'église et tout le monde ne les connaît pas. Voilà, regardez comme ils sont beaux, ce beau couple. Donc Gérard et Corinne, ce sont les parents de Thomas, de Pierre et de Timothée, qui n'est pas là. Timothée, voilà, c'est un homme et une femme de Dieu qui sont des gens offerts au Seigneur et qui sont un bel exemple de vie consacrée à Dieu et de belles familles qui marchent avec Dieu de génération en génération, et ça c'est extraordinaire. Aussi un petit coucou de Nicolas, ça y est, il est à Reims, voilà, génial. Donc il dit que, enfin j'ai pas eu de contact direct avec lui, mais sur Facebook je voyais qu'il mettait que ça démarre sur les chapeaux de roue, que dès qu'il pourra il nous fera une petite lettre de nouvelles, mais que là il est, voilà, ça a été long à démarrer, mais apparemment ça démarre, hein. Voilà. J'avais peut-être encore une petite chose, mais je ne me souviens plus. Donc on va passer tout de suite à la parole de Dieu. Je voudrais qu'on lise trois passages ce matin. On va commencer par le commencement, la Genèse. Donc je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre de la Genèse. Après... on lira dans le premier livre après la Torah, après le Pentateuque, c'est-à-dire le livre de Josué. Ah, ça y est, je me souviens de ce que je voulais dire. Je trouvais que c'était tellement beau ce matin quand les uns et les autres, on a cité des versets de mémoire. Alors certains ont lu, mais beaucoup ont aussi cité de mémoire des versets de la Bible, et je trouve que c'est formidable ça. C'était une super idée, Thomas. Je trouve qu'on devrait le faire plus souvent. Et qu'on devrait s'encourager, on l'a déjà fait il n'y a pas longtemps, mais de s'encourager à apprendre la Bible par cœur. Je crois que c'est Richard qui a récité un long texte de mémoire, il ne lisait pas, hein. J'ai pas vu qu'il lisait, donc c'est un super psaume qu'il a lu et qu'il a plutôt récité. Et je trouve que c'est vraiment important que la parole de Dieu habite en nous. Et puis donc on lira un texte dans Acte 2 ensuite. Alors, Genèse 12. C'est la paracha de la semaine, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. » Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc on lit dans Josué au chapitre 24, livre de Josué chapitre 24, à partir du verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel, et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le peuple répondit et dit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ses grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. » Et puis on va lire dans Acte 2, à partir du verset 41. C'est suite à la prédication de Pierre. Vous savez, c'est le moment de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend. Et il y a plein de gens qui sont complètement effarés de voir ce que Dieu fait là au milieu des disciples. Et qui disent, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et Pierre prêche, premier grand message d'évangélisation après le départ de Jésus. Et il nous est dit au verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et la crainte s'emparait de chacun. » Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Est-ce que vous avez vu un fil conducteur dans ces textes ou pas ? Je suis pas obligé de répondre. Hein. Je vais répondre pour vous. C'est l'objet de mon message. Quand Dieu s'adresse à Abraham, c'est pas encore Abraham, il n'a pas encore changé de nom. Quand Dieu s'adresse à Abraham, il lui dit de quitter des choses, de quitter son pays, quitter sa patrie, quitter la maison de son père pour aller ailleurs. Et quelle est la promesse qu'il lui fait ? Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, etc. Et non seulement je ferai de toi une grande nation, mais toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu va en fait extraire Abraham de la maison de son père pour construire une autre maison. Dieu va réorienter Abraham et va réorienter les priorités d'Abraham pour construire quelque chose de nouveau. Je trouve que c'est intéressant de méditer, de réfléchir là-dessus. Dans le monde évangélique auquel on appartient, c'est-à-dire dans l'enseignement de la Bible, mais dans le monde évangélique en particulier, on insiste beaucoup sur l'individu. On dit le salut est personnel, et c'est vrai. Et on insiste beaucoup sur le fait que on gagne des âmes, 3000 âmes, là, dans les actes. On insiste sur le fait que vraiment ce qui compte, c'est l'individu, c'est la décision personnelle, c'est le culte personnel, c'est le salut éternel. Personnel, j'ai plus la pile est vide, je pense. C'est le salut éternel personnel. Et on insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'individu. Et quelque part, on a raison. Je vais faire de toi une nation. C'est quoi une nation ? Une nation, c'est des gens qui sont natifs. Hein ? Les mots aident un peu, l'étymologie aide un peu. C'est des gens qui sont de la même famille. Alors, ce matin, je ne vais pas parler comme David l'a fait il y a 15 jours de façon très brillante sur la famille. Enfin, je vais en parler, mais différemment. C'est dans la même lignée, mais c'est autre chose. Je voudrais parler du plan de Dieu pour chacun, qu'on soit marié, qu'on soit célibataire, qu'on soit veuf, qu'on soit divorcé, qu'on soit tout. C'est de faire de toi une nation. C'est de faire de toi un groupe, c'est de faire de toi une communauté. Et même pas une communauté non plus repliée sur elle-même seulement, mais toutes les nations, toutes les communautés de la terre seront bénies en toi. C'est ça le plan de Dieu pour Abraham. Et c'est extraordinaire. Non, ça va ? Si ? Non ? Bon, sinon vous allez appuyer si vous crevez de chaud, hein, sur le bouton. Et en fait, j'ai pris l'exemple d'Abraham, mais c'est un exemple qu'on retrouve dans toute la Bible. Ça montre bien que c'est une constante du plan de Dieu. Une constante du plan de Dieu. Prenons Adam et Ève. Qu'est-ce que Dieu leur a dit ? Croissez, multipliez, remplissez la terre. Dieu voulait une communauté humaine. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu n'a pas créé 3 millions d'individus comme ça. Dieu a pris un couple, et de ce couple, il les a fait, j'allais dire, collaborer à son plan. Il les a fait entrer dans son plan. Et le plan pour Adam et Ève, c'était de former une communauté, un peuple, des familles. Puis ça tourne mal, on l'a lu il n'y a pas longtemps. Alors Dieu, il repart à zéro, il efface tout, il gomme. Et il prend Noé et sa famille. Et il recommence. Et quel est le plan de Noé ? Croissez, multipliez, remplissez la terre. Faites une communauté. On vient de le lire. Au sein de cette humanité qui vit dans le péché, Dieu va susciter un homme, Abraham, pour former un peuple, Israël. Mais ce n'est pas fini. Du sein de ce peuple, Israël, Dieu va de nouveau susciter un homme, bien d'autres, mais un homme en particulier, Jésus, né d'Israël, et qui va lui-même former quoi ? Une communauté, 12 disciples. Et à ces 12 disciples, qu'est-ce qu'il va dire ? Croissez, multipliez, remplissez la terre. En faisant des enfants, mais surtout en faisant des disciples. C'est extraordinaire. Et je voudrais ce matin qu'on réfléchisse à ça, à notre place dans ce plan de Dieu-là. Pas à ma place, moi, en tant qu'individu, centré sur moi, mais Seigneur, face à toi, pourquoi tu m'as mis sur terre, Seigneur ? Pourquoi tu m'as mis sur terre ? Eh bien, la réponse de Dieu, c'est comme pour tous les êtres humains, pour former une communauté qui appartienne à Dieu. Pour former une communauté qui appartienne à Dieu. Et là, on saute sur notre deuxième texte, le texte du livre de Josué. Josué, ça arrive après la sortie de la mer Rouge, les pérégrinations pendant 40 ans dans le désert, et puis il traverse le Jourdain, il rentre dans le pays promis, il commence à conquérir le pays, mais dans le pays promis, il ne conquiert pas tout, il y a pas mal de mélanges, il y a encore au milieu d'eux des païens qui adorent des idoles, et certains Israélites se laissent aller un petit peu à adorer aussi des idoles. Ce n'est pas très clair. Et Josué, à la fin de son livre, va dire, bon, maintenant, ça y est. Aujourd'hui, il faut choisir. Qui vous allez servir ? Est-ce que vous allez servir l'Éternel ou est-ce que vous allez servir les idoles de votre temps ? Est-ce que vous allez investir sur l'Éternel ou est-ce que vous allez investir sur les idoles de votre temps ? Alors, les idoles de leur temps, c'était les Amoréens, les Amoréens, c'était un peuple, mais c'est représentatif de tous les peuples païens, cananéens qui étaient là autour et qui adoraient des idoles, qui sacrifiaient à des dieux. Et Josué va dire, bon, en tout cas, vous choisissez, mais moi. Et ce n'est pas par manque de politesse, ce n'est pas parce qu'il ne connaissait pas bien le français qu'il commence par moi. Parce que vous savez, normalement, on dit ma femme et moi. On ne dit pas moi et ma femme. Beaucoup disent moi et ma femme. Non, 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 ma femme et moi. Hein ? Ou un tel et moi. On dit toujours l'autre d'abord et soi en dernier. Mais là, Josué, ce n'est pas par impolitesse. Il va dire moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et parce que Josué, vous savez que Josué, c'est le même mot que Jésus. en hébreu, hein, Yeshua, Yehoshua. C'est même la même racine. Parce que Josué décide, lui et sa maison, de servir l'Éternel, tout de suite après, tout le peuple dit, mais nous aussi, non, non, on ne va pas suivre les autres. Nous, on va suivre aussi l'Éternel. Nous aussi, on va investir sur l'Éternel. On va investir sur la communauté de l'Éternel. Et nous aussi, et notre maison, j'allais dire, on va servir l'Éternel. Parce que le responsable du peuple a pris ses responsabilités et qu'il a dit, c'est clair et net, moi, c'est là-dessus que je vais investir. C'est en Dieu. C'est dans le plan de Dieu, parce que le plan de Dieu, il est parfait. Et je ne vais pas le faire seul. Mais moi et ma maison. Vous savez ce que ça veut dire, maison, dans ce texte-là? Le mot maison est vraiment le mot maison. En hébreu, beit, c'est la maison. Mais ça veut dire ma famille. Dans la Bible, ça veut dire ma famille. Ça veut dire mon clan. Ce n'est pas seulement ma famille, père, mère et les 2 ou 3 ou 4 ou 10 enfants. C'est toute la lignée, c'est tout le clan, c'est mes enfants, c'est mes petits-enfants. Et ce n'est pas que, si je n'ai pas des enfants, des petits-enfants, c'est mes neveux, mes nièces, c'est mes proches, c'est tous ceux qui sont sous ma responsabilité, ceux dont peut-être j'ai été nommé parrain, marraine, je ne sais pas quoi. Moi et ma maison. Et pourquoi Josué dit moi ? Parce que ça commence par le chef, j'allais dire. C'est très patriarcal, mais la Bible est patriarcale de toute façon. C'est le chef qui prend ses responsabilités. Je ne vais pas me défiler, hein, ma femme et moi. Non, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Nous allons investir dans le royaume de Dieu, dans le royaume d'Israël pour l'époque. Alors, certains auraient tendance à dire... Oui, mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Nous, maintenant, on est dans une ère nouvelle, on est dans une alliance nouvelle. Et c'est là où on va rebondir sur notre texte d'Acte 2. Quand Pierre prêche à cette foule qui lui demande, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il nous est dit, je le relis, que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, prennent un engagement. Et en ce jour-là, le nombre des disciples a augmenté de 3000 âmes. Et on pourrait s'arrêter là et dire, ah oui, 3000 individus qui ont donné leur vie au Seigneur, qui marchent avec Dieu, qui... Alléluia, gloire à Dieu. Mais c'est mal lire le texte, il faut lire le texte tout au bout, jusqu'au bout. Au verset 47, et le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Dans la Bible, dans les écrits des apôtres, se convertir ou être sauvé, c'est synonyme d'être ajouté à la communauté. C'est synonyme d'être ajouté à la communauté. Quelque part, je ne suis pas pleinement dans le royaume, dans le plan de Dieu, tant qu'enfant de Dieu converti, sauvé, je ne suis pas ajouté à la communauté. Parce que le plan de Dieu éternel, je vous l'ai replié, hein, c'est construire un peuple. Faire un peuple, construire une communauté. Construire une communauté qui appartienne à Dieu. Et à la fin des temps, c'est ce qui va se passer avec la nouvelle Jérusalem. Tous les enfants de Dieu seront rassemblés comme une seule communauté. Il y a une très bonne image pour imager ça. C'est l'image des pierres. Vous savez que la Bible, dans les Écritures, il est souvent comparé le membre du peuple d'Israël ou l'enfant de Dieu à une pierre. Une pierre précieuse, mais une pierre. Et quand on a 3000 pierres, par exemple, pour reprendre l'exemple des Actes, quand on a 3000 pierres, qu'est-ce qu'on peut avoir ? On peut avoir 3000 pierres éparses. Ces 3000 pierres, elles sont éparses sur un terrain, elles sont un peu partout. Ou bien, on peut avoir 3000 pierres rassemblées, un bon tas de pierres. Hier, j'ai passé ma journée à bouger un tas de pierres, ben, je peux vous dire qu'un tas de pierres, c'est costaud. tendinite là ce matin. Ça peut être 3000 pierres, ça peut être un beau tas de pierres. Et puis 3000 pierres, ça peut être des pierres qui vont être taillées et intégrées dans un mur, dans une construction. Quelle est ton image de l'Église ? Quelle est ton image de la communauté de Dieu ? Des briques éparses ? Alléluia, il a été sauvé, on a prié pour lui dans la rue, il est sauvé, etc. Mais éparpillé. Est-ce que c'est un tas de briques ? C'est-à-dire, oui, on a une communauté, on se rassemble, mais alors c'est un tas de briques, hein ? De briques et de brocs, j'allais dire. Ou est-ce que c'est une construction ? Et pour construire, les pierres sont taillées. C'est-à-dire qu'il y a des angles. Je dois témoigner que quand je me suis sauvé, quand j'ai été sauvé, quand je me suis converti, il y avait encore des angles. Hein, et que le Seigneur a dû raboter un peu à droite, à gauche et faire tout un travail. Parfois douloureux, souvent pas douloureux du tout, parce que c'est facile de se laisser enlever une arête quand c'est pour du mieux. Ça, c'est extraordinaire. Dieu veut faire une construction. Alors, ce matin, l'objet du message n'est pas de parler de Dieu qui enlève nos angles, hein, ça en fait partie, mais ce n'est pas ça le cœur. Le cœur, c'est être construit ensemble. Dieu ne veut pas des briques éparses. Dieu ne veut pas, j'allais dire, un tas de briques qui se réunit le dimanche, qui s'agglutine, qui se rassemble. Dieu veut une construction. Et c'est ça une communauté, je pense. L'apôtre va dire que cette construction, elle s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc vraiment, le but de Dieu, c'est un peuple, c'est une communauté, c'est une famille. J'espère que les Écritures ce matin vous ont convaincu de ça. Alors je voudrais nous poser aussi la question, quelles sont les conséquences de ça ? Quelle est la conséquence de ça ? Alors, elles sont multiples, j'en ai déjà dit un certain nombre. Mais je voudrais qu'on y réfléchisse en tant que communauté ensemble. Quel est mon regard sur l'Assemblée chrétienne de Marguerite ? Quel est mon regard sur l'Assemblée chrétienne de Marguerite ? Est-ce que c'est des pierres éparses ? Et on pourrait le penser parce que notre communauté a la particularité, et depuis son origine c'est comme ça, de réunir des gens qui habitent loin les uns des autres. Et c'est une difficulté. Hein ? Pendant un temps, notre communauté était composée, ça s'est un petit peu rassemblé un peu plus, mais un peu recentré j'allais dire, mais des gens qui venaient de Béziers jusqu'à au-delà d'Avignon, etc. Ça continue pour certains. Et faire communauté, dans ce contexte, ça a du sens aussi. Donc est-ce que l'Assemblée chrétienne, ce sont des pierres éparses ? Non, 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 on se rassemble le dimanche. D'accord, est-ce que c'est un tas de pierres ? Quelle est la différence entre un tas de pierres et une construction ? Chacun a sa place, oui. Quelqu'un a dit ça, j'ai entendu. Qu'est-ce qu'est la différence encore ? Il y a du ciment qui tient les uns aux autres, ouais. Il y a l'amour, c'est le ciment, voilà. La construction est faite par Dieu. Alors c'est vrai, parce que Jésus a dit « je bâtirai mon église ». Mais en fait, on voit que ça ne se fait pas comme ça, j'allais dire. Parce qu'on pourrait dire ben, « c'est Dieu qui le fait ». Donc, clac, Dieu construit l'église. Allez, mais ça ne marche pas. Parce que Dieu a demandé à Adam et Ève de faire une communauté. Dieu a demandé à Abraham de faire une communauté. Il a fallu que Abraham aille vers sa femme quand même pour que ça marche. Ben oui. Etc. Jésus, il a fait 12. Et à ces 12, il a dit, allez. Donc, Dieu construit, mais Dieu construit avec nous. Et en fait, c'est ça. Le sens du message de ce matin. C'est toi. Tu es celui qui construit la communauté. Une communauté, ça se construit. Ça ne se construit pas sur un gourou, un chef suprême. Ça ne se construit pas sur simplement des affinités. Ah, on pense un peu tous la même chose, donc on s'aime entre nous et puis voilà. Non, une communauté, ça se construit. Et Dieu nous appelle, nous, membres de l'Assemblée, à construire la communauté. Est-ce que l'église de Marguerite, c'est un lieu où je viens, où je me rencontre, où Dieu me remplit ? Oui. Mais ce n'est pas que ça. Ce qui est extraordinaire, c'est que la Bible dit que nous sommes membres les uns des autres. Membres les uns les autres. Et ce n'est pas seulement une belle envolée poétique et spirituelle. Ce n'est pas seulement une belle vérité théologique. Nous sommes membres les uns les autres. Ce que Dieu veut, c'est une communauté. C'est quoi une communauté ? C'est quoi une communauté ? C'est un groupe de personnes qui est comme un. C'est un groupe de personnes qui est comme un. C'est ce que nous décrivait le livre des Actes tout à l'heure, en parlant des 3000 qui s'étaient ajoutés à tous les autres. Ils persévéraient, ça veut dire quoi, ils persévéraient ? Ils continuaient dans l'enseignement des apôtres, dans les Écritures. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain, centrée sur Jésus, la communauté. Et ils persévéraient dans les prières, dans la louange, dans le jeûne. Ils persévéraient ensemble. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ça, c'était une communauté. Comme un. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Les rassemblements sont hyper importants. Le culte, bien sûr, du dimanche, rassemblement du dimanche matin, mais aussi les rassemblements des groupes de maison, mais aussi tous les rassemblements qu'on peut, quand on se rassemble pour aller témoigner dans les rues, quand on se rassemble pour faire l'école, quand on se rassemble. Les rassemblements. Rassembler. Il faut qu'on soit proche pour être une communauté. J'ai beaucoup médité là-dessus lors du week-end dernier, parce qu'on s'est régalé, ceux qui étaient présents, il y avait à peu près un tiers de l'église. C'était extraordinaire. On a vécu des moments super. On a crapahuté dans les montagnes, mais c'était génial. Au début, j'ai eu un peu peur parce que Pierre nous avait choisi un itinéraire et nous avait dit, vous allez voir, c'est facile. Oui, sur la carte, c'était facile. Sur le terrain, c'était un peu autre chose. Il y a eu des moments où je me disais, ceux qui avaient leur bébé, comment on va faire ? Et puis finalement, on a porté les sacs, on s'est passé les bébés, puis on est arrivé à grimper et à monter là où il fallait aller. Et ensemble, on a fait quelque chose de génial. Et puis les temps de louange ont été super. Et puis la communion fraternelle, les repas, n'en parlons pas. C'était Cathy qui avait cuisiné. Hein, donc voilà. Donc. On a vécu une construction. Moi, je suis convaincu que le week-end dernier, on a bâti, on a construit. Il y a des personnes qui ont ouvert leur cœur. On a partagé des choses qu'on ne partage pas quand on n'a pas le temps comme ça. Et ça, c'était génial. Dormi sous le même toit. Moi et ma maison, une maison, c'est défini par un toit. On est sous le même toit. Et bien là, dans ce week-end-là, on a été sous le même toit. Et que c'est bon d'être de temps en temps sous le même toit. Moi, j'aimerais qu'on fasse au moins deux week-ends comme ça par an minimum. Quand on faisait la semaine biblique rendez-vous, c'était toute une semaine où on était sous le même toit. Hein ? Ah, jusqu'à... Je ne sais plus combien on avait été au maximum, dans les 700-800, quelque chose comme ça. Hein, parfois 300, parfois sous le même toit, sous le même chapiteau, pendant une semaine. Et là, on construit. Être ensemble. Être ensemble. Donc une communauté, c'est un groupe de personnes qui sont comme un. Certes, le salut est individuel, mais le salut mis en action, c'est d'être ensemble. Et je ne sais plus si c'est à ce moment-là que je le dis. Oui, c'est à ce moment-là que je le dis. Si vous avez une concordance numérique, tapez les uns les autres dans la concordance. Hein, sur enseignemoi.com ou je ne sais plus, enfin plusieurs sites comme ça où il y a des concordances, tapez les uns les autres. Et vous allez voir toute la ribambelle. Aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Etc. etc. Il y a une ribambelle. Comment résumer la communauté les uns les autres? Ça, c'est formidable. Qu'est-ce que c'est aussi une communauté? C'est pas seulement des gens qui sont comme un, c'est aussi des gens qui ont des choses en commun, qui ont des temps en commun. Je viens d'en parler, ces temps qu'on a en commun. Qu'est-ce qu'on a aussi en commun? Une même foi, un même Seigneur, un même Père de tous. On a plein de choses en commun. On a plein de choses qui nous différencient et qui font nos couleurs différentes, et ça, c'est extraordinaire. Et il ne faut surtout pas niveler ça. Vous savez, dans une église, c'est important que tout le monde ne prie pas comme tout le monde, que tout le monde ne fasse pas comme tout le monde, qu'il y ait des différences, des couleurs. Ça, c'est la sagesse multicolore de Dieu. Mais quand même, on a un tronc commun et on y tient. Et l'Assemblée chrétienne de Marguerite, elle a sa personnalité et on y tient, c'est important. Il faut connaître le pourquoi du comment, connaître l'histoire, qu'est-ce qui a formé cette communauté, pour continuer, quand on s'y ajoute, à construire cette communauté dans les valeurs que Dieu a données. Et puis un groupe de personnes, ce n'est pas seulement un groupe qui est comme un, ce n'est pas seulement un groupe de personnes qui a des choses en commun, mais c'est un groupe de personnes qui met des choses en commun. Une communauté, ça se construit. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on a tous des dons différents. Et la communauté, elle se construit si on y investit nos charismes au service de la communauté. Qu'est-ce qu'on peut encore investir dans la communauté? Du temps. Du temps. Et franchement, c'est un des plus belles choses, quand je regarde en arrière, que j'ai pu vivre avec Dieu depuis ma conversion, c'est de donner du temps pour servir. Ça, c'est extraordinaire. De faire comme Dieu a demandé à Abraham, du tri dans ma vie, pour donner du temps pour le Seigneur et pour la communauté. Franchement, on récolte toujours la bénédiction, la grâce. Donnons du temps à la communauté, donnons du temps au Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut mettre en commun aussi ? J'ai fait exprès de ne pas le mettre en premier, mais c'est important. On a eu une très bonne encouragement sur l'offrande tout à l'heure. On peut mettre de l'argent en commun. Xavier nous rappelait le texte tout à l'heure qui parle des dîmes. Et ça, c'est vraiment la justice et l'équilibre effectivement de Dieu. Ceux qui ont peu donnent peu, ceux qui ont beaucoup donnent beaucoup. Bon, le problème, moi quand j'entends ça aussi, pas par rapport à ce que tu as dit, mais dans mon esprit tourné, mal tourné, c'est que finalement, je considère que je n'ai pas beaucoup, quoi. On n'a pas beaucoup. Qui est-ce qui a beaucoup parmi nous? Qui est-ce qui a trop d'argent? David, super. Bon, alors, vous savez sur qui il faut aller taper, hein, quand vous, voilà. Qui? Personne n'a trop. Personne n'a trop. Personne n'a beaucoup. Il y a toujours quelqu'un qui a plus, vous savez? Et ça, on m'a enseigné ça quand j'étais tout jeune converti à 18 ans, que j'avais, je crois, à l'époque, il me semble, c'était 200 francs d'argent de poche. Avec ces 200 francs, je me payais mes trucs pour étudiants, je me payais l'essence de ma 103 Peugeot, je me payais, etc., etc. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans... Hein. Mais on m'avait appris. Et alors, de mes 200 petits francs, je donnais 20 francs le dimanche. Je donnais peu, j'avais peu. Mais je donnais 10%. Et Dieu a toujours béni. Dieu bénit celui qui donne avec joie. Et c'est important de bénir, d'apporter à la maison du trésor, comme ça on a lu ce matin, les dîmes et les offrandes. Vous savez ce que c'est la différence entre une dîme et une offrande? La dîme, c'est je reçois tant, je donne 10%. Et l'offrande, c'est, je crois que je n'ai pas donné assez, donc je vais donner un peu plus. Hein, c'est ça. Alors, ce n'est pas une loi, il n'y a aucune loi dans la Bible. Il y a des principes. Il y a des principes. Et c'est vrai que c'est important. Et ce principe du 10%, qui n'est pas du tout une loi ni une obligation, c'est un principe intéressant. Parce que, effectivement, si tu n'as pas beaucoup, 10%, ce n'est pas beaucoup. Mais parfois, le 10%, c'est de ton nécessaire. Et c'est ce que Jésus avait vu quand cette veuve a donné. Elle a donné son nécessaire, c'est-à-dire ses 10%. C'était rien pour les autres, c'était une petite pièce, ça vaut rien. Non. C'est son nécessaire qu'elle a donné. Et puis le riche qui avait tellement de choses à donner, mais tellement de choses à gérer aussi, peut-être il ne donnait pas non plus les 10%. Et c'est important de se revoir, juste de refaire le point de temps en temps sur où j'en suis de mes dons. Alors on peut donner du temps, on peut donner nos charismes, on peut donner notre présence, on peut donner de l'amour, on peut donner la liste, là elle serait longue, mais je vais m'arrêter là. Ce que je résumerai, c'est, j'ai envie de donner un autre nom au Saint-Esprit ce matin qui nous habite. Esprit de service. L'esprit de service. Ça c'est le Saint-Esprit quand il nous habite. Quand il nous habite, on a envie de servir. On a envie de construire. On a envie de bâtir. Et c'était ce que je voulais nous laisser ce matin. Ce que Dieu veut, le plan extraordinaire de Dieu qui va aller à son accomplissement, c'est une communauté. Tu n'es pas une brique éparse qui vient de temps en temps comme dans un tas de pierres. D'ailleurs, à ce sujet-là, l'apôtre va dire « N'abandonnez pas vos rassemblements ». Pas du temps de Paul, il devait y avoir des gens qui venaient une fois tous les 3 mois. Ça, c'est un tas de pierres. Une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois. Bon, sauf quand il y a des raisons, on est malade, on est je sais pas quoi. Hein. Je sais pas comment. Il n'y a pas de détails sur ce que veut dire Paul quand il dit ça. Mais voilà, tu n'es pas une pierre éparse qui se rassemble sur le tas de pierres. Tu es une pierre dans la construction. Vous savez la différence aussi. Prenez un tas de pierres. Fermez, vous le voyez là? Regardez ce beau tas de pierres là. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Voilà. Regardez. Ouvrez ce tas de pierres. Qu'est-ce qui a changé? Ouvrez les yeux. Regardez le tas de pierres. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Si, j'ai enlevé une pierre, vous ne l'avez pas vu, vous aviez les yeux fermés. Parce que le tas de pierres, si j'enlève une pierre, vous n'allez pas le voir. Voyez maintenant le mur, il n'est pas en briques, mais disons qu'il est en briques, enfin il est en aglo, mettons. Hein. Voilà, j'enlève un aglo du milieu. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? En hiver, il va faire froid. En été, il va faire chaud. Quand il pleut, il va y avoir des fissures, des infiltrations d'eau. Tu es une pierre précieuse que Dieu met dans son église, dans sa communauté. Et c'est toi, tu te dis, mais moi je connais le Seigneur depuis 15 jours. Oui, mais toi, né de nouveau depuis 15 jours, c'est toi qui vas construire la communauté. Ce n'est pas les anciens. Ce n'est pas les diacres, ce n'est pas ceux qui sont convertis depuis 25 ans. C'est toi, c'est chacun qui construit la communauté. Et ça, c'est génial. Parce que là, on revient à ce que je disais au début, dans un épanouissement extraordinaire. Parce que bâtir une communauté, que ce soit une famille, que ce soit une église, que ce soit autre chose, un peuple, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ton plan éternel. Merci pour cette communauté, l'Assemblée de Marguerite, que tu as suscitée à partir de peu de choses, à partir d'un tout petit groupe de personnes et qui construit. Merci parce que cette communauté a donné naissance à d'autres communautés. Merci pour tous ceux qui ont été envoyés pour implanter. Seigneur, merci pour cette communauté qui se construit jour après jour, semaine après semaine. Merci Seigneur pour les nouvelles pierres magnifiques que tu as ajoutées ces derniers mois. Merci Père parce que tu nous invites ensemble à construire cette communauté, à la voir belle, à la faire belle pour toi Seigneur. Merci parce que tu as donné à cette communauté un beau bâtiment, un beau jardin à construire, à entretenir, à bâtir. Merci parce que tu as donné des beaux projets. Merci parce que tu as donné toutes sortes de choses magnifiques. Et surtout, tu lui as donné une ribambelle d'enfants qu'il nous faut construire aussi. Merci Seigneur pour vraiment ton plan qui s'accomplit parmi nous. Et merci parce que ce matin, tu rappelles à chacun d'entre nous, tu fais partie du mur. Tu construis la communauté. Amen.
Merci Joël.